au pays des contes. Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène en Inde, et en Inde, chaque pierre, chaque lieu, chaque plante, chaque animal, chaque situation, chaque aspect du divin et de nombreux humains ont une ou plusieurs histoires. Écoutez. Sur le chemin du temple, les mendiants étaient alignés, parfois serrés l'un contre l'autre, parfois espacés, au gré des ombres protectrices et des passages étroits. Et parmi eux était Ratan. Il était arrivé épuisé. Un tremblement de terre avait ruiné son village et ravagé sa récolte. Sa maison s'était effondrée. Sa femme, ses enfants et tout son clan avaient été broyés dans la terre éventrée. Il avait tenté de fuir les terribles images de la colère divine, mais ses souvenirs couraient devant lui. Ayant toujours travaillé la terre, il était totalement inexpérimenté dans l'art de mendier, qui exige une fine perception des sentiments humains et des lieux favorables. La gorge serrée par une honte désespérée, la tête basse, évitant les regards, il avait d'abord tenté de mendier seul, à l'écart des autres. Il n'avait pas voulu se mêler au flot des mendiants professionnels sur lesquels il portait un rude jugement de paysan tenace et fier. Les journées de solitude lui semblèrent rapidement interminables. Son visage devint morose. Les pèlerins se détournaient de lui. Affamé, à bout de force, il dut envisager d'apprendre les astuces de ce métier. Un matin, il s'était donc résolu à s'installer parmi d'autres quémandeurs. Les pauvres hères, peu enclins au partage, lui avaient fait un accueil glacial. Il avait été insulté, bousculé, incité à partir. D'ailleurs, les pèlerins passaient sans trop regarder ce groupe, devinant une sourde menace derrière les bras qui agitaient furieusement des bols, derrière les requêtes criaillées et les yeux fiévreux. Ici, l'aumône était rare. Le lendemain, il avait réussi à s'infiltrer dans l'alignement de mendiants douloureux qui rétrécissait un passage entre les murs de l'escalier abrupt descendant vers le Gange. Ici, oh, les éclopés exhibaient leurs moignons, les lépreux et les scrofuleux y frôlaient les passants qui fuyaient prestement en achetant leur tranquillité d'une large pluie de piécettes. Ratan était resté parmi eux un moment, puis il avait fini par craindre la colère des dieux. Il n'était ni malade, ni handicapé. Il lui semblait injuste de profiter de la manne destinée à ces miséreux entre tous pitoyables. D'ailleurs, un matin, il avait remarqué une curieuse écorchure à sa cheville droite. Il avait alors jeté à la hâte sa récolte de monnaie dans les sébiles des grabataires les plus proches, puis il avait brûlé de l'encens pour appeler sur lui l'attention de Vishnu, le dieu qui maintient le monde et protège l'humanité. Voyant son repentir, Vishnu avait permis que l'écorchure ne devienne pas une plaie, qu'elle sèche et disparaisse. Alors, Ratan avait erré en quête d'un lieu propice, en quête de survie. Il s'était éloigné des temples. De l'autre côté du fleuve sacré, il s'était arrêté soudain. Assis sur une racine à l'ombre d'un banyan, un flûtiste aveugle créait un cercle magique. Chacun ralentissait pour l'entendre, s'arrêtait un moment. Certains restaient debout, hypnotisés par la mélodie. Ratan n'avait pas pu repartir. Cette musique lui avait paru divine, semblable assurément à celle qui éclaboussait la clairière où jouait Krishna, le dieu à la flûte enchantée. Il avait vu là un signe favorable, et il s'installait désormais quotidiennement en face du flûtiste. Les voyageurs qui s'arrêtaient ici n'étaient pas comme les autres. Ils n'éprouvaient aucune hâte dans leur pèlerinage, comme si chaque pas, chaque instant, était déjà le but, comme s'ils n'étaient que des pétales au vent cosmique et qu'ils dansaient la vie au lieu de la conquérir. Ils s'asseyaient près de l'aveugle, partageaient leurs provisions avec lui, invitaient Ratan à les rejoindre et laissaient encore une offrande en partant. Longtemps, l'aveugle à la flûte et Ratan vécurent ainsi. Ratan protégeant l'aveugle en surveillant les voyous qui auraient volontiers vidé sa sébile. L'aveugle charmant les pèlerins. Et les jours avaient un goût simple et doux. L'aveugle ne vint pas. Ratan se découvrit orphelin de bien plus qu'un compagnon de misère. Certes, sans son ami, nul ne s'arrêterait pour lui tendre 3 sous, mais cela n'était rien. Son vrai chagrin fut d'être privé de rêves. Sitôt que la flûte colorait l'espace, il prenait une densité amoureuse. Des saveurs, des parfums, des lumières tourbillonnaient. En vérité, ce n'était pas l'aveugle qui lui manquait, c'était Krishna lui-même. Désorienté, il s'assit au pied du banyan à la place habituelle du musicien. Il attendit, sans savoir quoi. Comme la journée s'étirait, Ratan somnolait, légèrement tassé dans ses haillons. Il rêvait qu'il était un roi, rêvant qu'il était mendiant. Les pèlerins passaient sans voir cette forme empoussiérée par le temps et la terre pulvérisée sous leurs pas. Parfois, les bruits de voix d'une troupe sur le chemin le ramenaient entre sommeil et veille, alors il ne savait plus s'il était immobile ou errant, roi ou mendiant. Quelqu'un passa, jetant un objet qui fit sonner curieusement la sébile en terre. Ratan, surpris, sortit de sa torpeur. Il n'avait reconnu ni le chuintement feutré de l'aiguillère manipulée par une esclave craintive, ni le tintement acidulé des piécettes. Ouvrant les yeux, il sentit sa faim, reconnut la racine et l'arbre. Il jeta un œil vers son écuelle. « Hélas, pensa-t-il, je dors encore. Je vois une pièce en or. » Une pièce en or ? En un instant, Ratan était debout, soudain réveillé, ébahi par l'improbable offrande. Il mordit la pièce pour s'assurer que son éclat n'était pas trompeur et il sentit avec jubilation ses dents pénétrer la matière. Il ferma le poing sur son trésor, examina les alentours, incrédule, attendant vaguement que le passant revienne la chercher. Mais la poussière du chemin était retombée sous ses pas et nul bruit de galopade, nul appel pour le retenir ne parvenait sous l'arbre. Il demeura un moment debout, incertain. Avait-il le droit de tenir un tel objet dans sa main? Ne risquait-il pas d'être pris pour un voleur? S'il se trouvait interrogé, comment prouver son bon droit? Comment justifier qu'une pièce en or puisse lui échoir? Un rugissement soudain sortit de sa poitrine, un rire formidable. Où cacher ce trésor? Il serait en lieu sûr dans sa cachette, sous un pli de montagne. Il partit en courant, il riait, il pleurait, il bondissait. Essoufflé, il s'arrêta un instant, ouvrit la main pour regarder encore, se persuader de sa chance. La pièce n'y était plus. Elle était tombée. Elle n'avait pu que tomber. Elle n'était pas un rêve, elle était réelle, solide, puisqu'il l'avait mordue. Il rebroussa chemin, marchant à grands pas, pressé de la ramasser avant qu'un autre la trouve. Il ne croisa personne. En fut rassuré. Il parvint au banyan sans l'avoir retrouvé. Il revint posément, soulevant les cailloux, époussetant sa route. Rien. Il retourna une fois encore jusqu'au pied du banyan. Là, son cœur plongea dans sa poitrine, tirant sur ses épaules, lui coupant le souffle d'un poids énorme. La pièce d'or était introuvable. Perdue. Oh, sa tête se vida. Toute sa vie se concentra dans cette absurdité insoutenable, une pièce absente qui prenait toute la place. Sa bouche se parchemina. Il grelotta, un hurlement silencieux l'habita, l'opposant brutalement aux apparences. Non. La pièce, ma pièce, ne doit pas, ne peut pas être perdue. Il lui parut soudain qu'il n'avait vécu que pour elle. Rien d'autre n'avait d'importance. Il n'avait pas seulement égaré la nourriture d'aujourd'hui et le grain pour semer à nouveau. Il avait perdu son rêve. Il s'assit, brisé par l'émotion. Il balbutia. Pourquoi dois-je toujours perdre tout ce que j'étreins, femme, enfant, terre, et même cette pièce? Alors il sanglota, désespéra. Avec le temps, cependant, son cœur retrouva sa place, son rythme. Son esprit commença à envisager la possibilité que la pièce fût définitivement perdue. Et une paix vint l'habiter, avec la certitude que rien ne saurait arriver sans la volonté divine. Il murmura « Tout se produit selon un plan juste, bien qu'il soit pour moi inimaginable, incompréhensible. » Alors il put se lever et se remettre en quête de la pièce, tranquillement, systématiquement. Non parce qu'il était impensable qu'elle ait disparu, mais parce qu'il était de son devoir de la chercher et peut-être de la trouver, s'il était dit qu'elle ne devait pas rester perdue dans la poussière. Il avança posément, prenant le temps de vivre chaque geste, chaque regard, chaque pas, sans émotion, sans attente ni regret. Il fut plus que guetteur, pur regard, perception, conscience vigilante. Il en oublia presque la pièce. Il joua le jeu de la quête. Le moindre instant était le moyen et le but. Lui n'était plus celui qui est, celui qui fait, celui qui voit, mais existence, action, vision. Alors, l'œil fut attiré par un reflet, une brillance dans la poussière brune. Ratan s'agenouilla, gratta la terre autour du scintillement. Ce fut le surgissement d'une source, une étoile revint des abîmes, éblouissante. Il venait de libérer un diamant énorme et sublime, le Chintamani. Maintenant, c'était un moine inconséquent. Il n'avait renoncé au plaisir du monde que dans l'espoir d'atteindre la sagesse et de fonder un ashram peuplé d'obéissants disciples. Les dieux, considérant qu'il risquait de perdre son âme en poursuivant dans ce sens-là, s'étaient cachés de lui et l'avaient soigneusement aveuglé. Il savait bien qu'armé d'un bout de vérité, il risquait de devenir suffisamment crédible pour attirer des âmes innocentes. Figeant son ébauche de savoir en dogme pour cacher l'étendue de son ignorance, il aurait pu réduire en esclavage les malheureux pris au filet de sa fin de puissance. Après nombre d'années de quêtes infructueuses, il s'enferma dans la douleur de n'être pas reconnu. C'est du moins ce qu'il estimait, car reconnu, il l'était bien, mais comme faussaire notoire, ce qu'il ne souhaitait pas s'avouer. Il finit par décider que les villageois, qui se montraient courtois mais peu empressés à son égard, ne le méritaient pas. Prenant son sac, il se rendit en ville. « Les citadins agités ont sûrement besoin de mes lumières », se disait-il. Il déambula, le regard supérieur et le nez au vent, claironnant dans les avenues « J'ai des réponses. Qui a des questions ?» Les citadins le croisèrent sans pause, sans même le dévisager. Ben, ce n'est là, pensèrent-ils, qu'un pauvre fou. De plus, dans un monde où chacun chemine le front bas, enclos dans ses projets et regrets, refusant de risquer ses certitudes au contact d'autrui. Fuyant la foule compacte des avenues, il arpenta les rues et les ruelles, refuge de la vie tiède et simple, sans que nul ne s'inquiète de sa santé, sans qu'aucune nourriture, aucun siège, aucun thé ne lui soit proposé. La nuit devenant palpable, épaisse, il fila vers le temple. Le brahmane, à l'œil exercé, le repoussa hors de l'enceinte du lieu saint. Le ventre vide, il coucha donc dehors sous le porche, où des chiens errants le harcelèrent. À l'aube, il dut chasser des vaches qu'il prenait pour un buisson. Leur vacher l'insulta, l'accusa hautement d'avoir troublé ses bêtes. Il fuit, le cœur meurtri. Plusieurs jours s'écoulèrent ainsi. Sa sébile restait muette. Son esprit se mit à divaguer. Il pensa au village, au repas que les villageois lui offraient simplement, à leur tolérance bon enfant. Certes, ils ne le traitaient pas en maître, mais il était bien parmi eux. Il décida d'y retourner. Il était si sale et si dépenaillé qu'il entreprit d'abord de se laver. Il voulait changer de vie, se purifier des illusions accumulées en cours de route, devenir enfin moine renonçant, chercher la vérité pour sa seule beauté. Dans la lumière moite et vibrante, un nuage léger tout à coup l'ombragea. Un chant naquit, au loin, dans la rumeur des rues. Il descendit jusqu'au champ crématoire, au bord du fleuve. Les cendres des morts, collées au sable par la brume matinale, formaient des flaques d'ombre. Il sinua entre elles jusqu'à l'eau, posa son sac pour se baigner longuement dans le courant. Il tenta d'y noyer son démon. Il sortit tout tremblant. La faim troublait sa vision, le paysage tournoyait autour de lui. Un morceau de pain desséché s'effrita du bec d'une pie en vol et tomba près de lui. Il le saisit, le porta à ses lèvres. Oh, cela empestait l'ordure rance. Il fut tenté de le jeter au chien qui s'était précipité vers cette providence. Ils se regardèrent un instant. Le regard du chien n'était qu'espoir et résignation. Son corps pelé que cuir tendu sur les côtes. Le moine, lisant son futur, recula. Des crampes lui broyaient le ventre. Il croqua ce morceau de pain. Il ne put l'avaler qu'à coups de poignée d'eau, tant il était sec et infect. Le chien flaira le sol, lécha des miettes éparses et s'en alla au petit trot. Quand son pagne fut sec, le moine reprit son sac et s'éloigna lui aussi, errant un instant parmi les cendres allégées par le soleil. Il s'arrêta, indécis, s'en remit à Shiva pour le conduire au mieux. Il poudra ses cheveux et recouvrit son corps de cendres funéraires. Puis, le pas ralenti, tant par les privations que par la lassitude, il traversa la ville. Les chiens s'éloignèrent de lui, des vaches le frôlèrent sans le bousculer, des gens jetèrent quelques sous dans sa sébile. Il crut voir dans ses attentions la miséricorde des dieux. Ces épreuves l'avaient-elles sanctifié ? Il osa se dire cela, et une bouffée de bonheur l'envahit. Il parvint à grand-peine au faubourg de la ville. Ses jambes tremblaient, sa tête tournait, le morceau de pain l'avait à peine nourri. Une faim broyante l'affaiblissait. Dans une cour ouverte, il avisa une maisonnette. Il la bénit, puis vint s'asseoir à l'ombre de la véranda, s'appuyant contre un pilier. Un singe tenta de chaparder son sac. Il le glissa derrière la porte à l'abri dans la maison. Le singe, déçu, chaloupa vers d'autres jeux. Épuisé, le moine s'endormit. Soudain, il sursauta. Une voix de femme l'appelait. « Êtes-vous souffrant ?» Son vieux démon se réveilla en même temps que lui. Il s'entendit répondre. « Non, je me reposais en vous attendant. » Elle s'étonna. « Vous m'attendiez ?»« Oui, je dirige un ashram. J'ai dû venir en ville régler quelques affaires. » Des disciples qui vous connaissent m'ont dit beaucoup de bien de vous. Votre maison, disait-il, est honorable et accueillante aux renonçants. J'ai chargé ce matin mon disciple de vous annoncer ma venue. Je n'ai vu personne aujourd'hui. Ah, c'est curieux. Il m'a dit vous avoir laissé mon bagage.
Il n'est pas ici.
Il l'a peut-être confié à votre époux, à vos enfants. Voulez-vous bien vérifier ?
Oui, oui, je vais le faire.
Elle disparut dans la maison et revint sans délai, tenant le sac.
Celui-ci ?
C'est bien lui, grâce à Dieu.
Ah, votre disciple a dû rencontrer mon époux qui partait au champ.
Entrez donc, soyez le bienvenu. Le moine, soulagé de trouver enfin un toit et un repas, s'empressa de la suivre. Il s'installa sur la natte qu'elle disposa pour lui, fit mine d'accepter pour lui faire plaisir du thé sucré et des fruits. Feignant l'humilité et le détachement, il engloutit tout ce qui lui fut offert, puis fut pris d'une envie de sieste. Il sortit son chapelet d'un geste large et, pour digérer à son aise, se mit à ronronner, les yeux clos, un mantra. Son hôtesse débarrassa prestement le plateau, revint poser de l'encens devant l'autel familial et s'éclipsa sur la pointe des pieds. Quand son époux revint des champs, elle l'accueillit devant la porte. « Un moine est là, il médite, ne le dérange pas, » dit-elle. C'était un brave homme, il accepta sans discuter que son épouse ait accueilli un religieux. Il s'installa sur la véranda pour attendre tranquillement le souper. Elle attendait dans sa cuisine le retour du disciple afin de le nourrir en même temps que son maître. Or, ce disciple-là tardait à venir. Le moine, craignant que sa sieste méditation ne fût la cause du délai apporté au repas, vint s'asseoir près du paysan. La femme vint lui demander s'il fallait attendre le disciple. Ah, de pieux gens l'ont retenu sans doute. Votre mari me semble fatigué, les journées de labour sont longues, il doit avoir besoin de dormir. Dis non. La nuit était noire, aucun disciple n'apparaissait. Ne craignez-vous pas qu'il soit arrivé quelque mauvaise affaire à cet homme ?
Non, non, ne vous inquiétez pas. Tel que je le connais, il est trop consciencieux. Il aura voulu faire plus que je ne lui avais demandé. Vous devriez aller dormir. Je vais l'attendre au frais sur la véranda. Il me verra en arrivant, il pourra dormir près de moi. Nous ne vous dérangerons pas. Ces gens, tout simples qu'ils étaient, n'étaient pas pour autant naïfs.
Ils se firent un clin d'œil complice et sans un mot, s'enfurent dormir, laissant l'homme à son rêve. À peine la mèche de la lampe écrasée, ils entendirent un bruit de pas, puis la voix de leur invité grondant.
« D'où viens-tu à une heure pareille ?»«
Oh !» répondit une voix plaintive, « j'ai réussi à finir tout ce dont vous m'aviez chargé. Il suffira que vous passiez au temple demain matin. Des braves gens m'ont offert un dîner, je les ai quittés à la nuit. Je connais mal la ville, je me suis égaré. »
C'est bien, nos hôtes dorment, ne les réveillons pas. Masse mes jambes fatiguées. »
Surpris et confus d'avoir mésestimé le moine, la femme et son époux risquèrent un œil entre des planches disjointes pour voir le disciple. La main devant la bouche, ils pouffèrent de rire. Leur invité jouait sa comédie tout seul.
« C'est bien, je vais mieux. Dormons maintenant, » dit le moine.
Il s'allongea et s'endormit enfin, l'âme apparemment en repos. Au matin, même comédie.
« Lève-toi ! Va prévenir le responsable du temple que j'irai le voir ce matin. Évite de te perdre et attends-moi là-bas. »
Le couple joua le jeu. Ils parurent à la porte et s'étonnèrent que le disciple soit déjà reparti.
« Oh, vous savez, nous autres moines ne séjournons jamais longtemps hors de notre ashram. Il nous faut donc terminer aujourd'hui nos démarches et repartir. D'ailleurs, je dois aussi aller au temple de ce pas. »
Il s'enfuit à grands pas. Jouant les affairés, il oublia son sac. À la porte du temple, il y pensa soudain, revint dans la foulée pour reprendre son bien.
« Ah !» dirent ses hôtes, « votre disciple est venu le chercher. Il nous a dit que vos jambes fatiguées ne pouvaient revenir jusqu'ici, qu'il vous avait massé la nuit dernière, mais que vous souffriez encore. Il ne peut pas être bien loin, il vient à peine de partir.
» Le moine hocha la tête. Que répondre à cela ? Il repartit sans bagage, l'orgueil défait, tentant de garder un air digne. Il aurait aimé disparaître en fumée. Son cœur était brûlant, chargé de l'amer regret d'avoir déjà perdu la simplicité de la veille. Une prière monta à ses lèvres, un acte de contrition, un appel au secours. Comme il marchait les épaules basses, il entendit « Te voici nu, enfin, et vidé de toi-même. Marche, je suis dans ton pas. Ah, il se sentit plus lourd encore, plus indigne. Il marcha au hasard, se réfugia au fond d'une grotte non loin du village. Il se terra au plus sombre, se fit invisible. Il pria, pleura, battit sa coulpe, médita. Il demeura là si longtemps que des lianes fermèrent l'entrée de la grotte, le protégeant de lui-même et des curieux. Un matin, il vint s'asseoir au bord de la grotte, contempla le monde qui connut un jour étrangement beau, lumineux. Le lendemain, il était encore là, et la semaine suivante. Les mois et les années passèrent, son corps se dessécha, se momifia. Des voyageurs l'aperçurent, demandèrent le nom du saint statufié dans la montagne. Nul ne savait. On s'étonna. On s'en fut voir cet être d'où émanait une force et une douceur indicibles. Un petit temple fut construit, puis un ashram autour de ce saint inconnu, dont la présence apporta le bonheur et la prospérité au village. Comme celle qui les a collectés, j'espère que ces contes sauront vous conduire au plus profond de vos mémoires pour y redécouvrir vos prodigieux trésors enfouis. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt, j'espère.